Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Je suis de plus en plus dérangé par cette pratique de la foi qui ne produit pas de résultats. Où en réalité, tu pries pour te donner bonne conscience, pas pour être exaucé. Tu jeûnes parce que tu es conscient qu'un chrétien doit jeûner, mais que tu jeûnes ou pas, ta vie ne change pas. J'ai écrit ceci dans mes notes, je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai pensé. Si nous sommes dans la vérité, il doit y avoir des résultats. Si nous n'avons pas de résultats, c'est peut-être que nous ne sommes pas dans le vrai. Ou que ce que nous disons être vrai ne l'est pas totalement. L'une des choses qui, à mon sens, est plus meurtrière que le mensonge, ce sont les demi-vérités. Je me suis rendu compte que le diable, qu'on appelle le père du mensonge, se spécialise dans le fait de dire des demi-vérités. Et qu'en vrai, il ment dans l'esprit de ce qu'il dit, mais il se cache derrière des choses qui sont vraies à la première écoute. Il dit à Jésus, il est écrit, saute, il donnera des ordres à ses anges pour que ton pied ne heurte pas une pierre. C'est vraiment écrit. Sauf que le contexte dans lequel il utilise le texte, c'est un mensonge. Écoutez, ça veut dire que si ce que vous pensez est vrai, où sont les résultats? Par exemple, nous avons du mal à vous modifier parce que vous considérez que ce que vous savez est suffisant pour là où vous devez aller. Si ça l'était, ou si ça l'est, pourquoi vous n'y êtes toujours pas? Si tu n'as rien à changer dans ce que tu pratiques, dans ce que tu penses, comment ça se fait que tu tournes en rond? Vous m'entendez ou pas? Il doit y avoir une maîtrise de la spiritualité à laquelle nous appartenons, de la foi que nous professons. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, vous devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Écoutez, le mot maître fait référence à la maîtrise. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie chrétienne ou dans la foi où nous ne devons plus être des enfants, des élèves qui tâtonnent ou qui font des choses en se disant peut-être ça va marcher. On doit pouvoir maîtriser ce qu'on fait de telle sorte que si on dit je fais ça, j'aurai ça. Votre vie, pour certains d'entre vous, ressemble à quelqu'un qui prend n'importe quel médicament en se disant « Si je prends ça, 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 peut-être je serai guéri. » Le problème, c'est que quand tu es guéri, tu ne sais pas ce qui t'a guéri. Et tu dois à nouveau reprendre une suite de médicaments pour pouvoir peut-être être guéri. Et après, tu n'es même pas guéri. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle l'automédication est destructeur, meurtrier, dangereux, diabolique? Qu'est-ce que l'automédication? C'est tu n'es pas médecin. Parce que tu as appris que ton frère ou ta sœur, ton parent, ton combi, ton ami a pris tel médicament quand il avait tel symptôme, la personne te dit, ah, quand moi j'avais mal à la tête, j'avais pris ce médicament. Tu as mal à la tête. Prends. Toi, sans consulter le spécialiste, tu te bases, écoutez-moi, sur le témoignage ou l'expérience d'autrui pour déterminer ce que tu dois prendre. Le problème, c'est qu'autrui et toi, vous n'avez pas le même métabolisme. Vous n'êtes pas créé de la même manière. Est-ce que je peux vous déranger? Ce qui marche pour l'autre peut ne pas marcher pour toi. Et je vais pousser. il y a des expériences spirituelles qui doivent rester personnelles et qui ne doivent pas devenir des doctrines, qui ne doivent pas devenir des choses que tu enseignes aux autres en disant, parce que j'ai vécu ça, si vous faites ce que j'ai fait, vous aurez ça. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la vérité. J'entends Jésus qui dit à Pilate, en fait, qui lui parle de la vérité, et Pilate pose cette question, qu'est-ce que la vérité? Ça paraît être un sujet philosophique, mais en réalité, vous devez savoir que ce qui libère, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas l'offrande. Ce qui libère, c'est la connaissance de la vérité. Ça veut dire que tu peux rester prisonnier malgré le jeûne, la prière, les offrandes, les sacrifices, parce que tu ignores une vérité. Regarde ton voisin, dis-lui, garde ton cerveau allumé. Tu es fatigué, c'était une longue journée, mais garde ton cerveau allumé. Quand tu vois que tu somnoles, prie. Oh Dieu, je vais essayer de vous dire les choses que je veux vous dire. Mon Dieu, mon roi. S'il y a vérité, il y a des vérités subjectives et des vérités absolues. Il y a des vérités qui sont vraies partout et il y a des vérités qui ne sont vraies que dans un contexte, que dans un système, que dans un environnement. Par exemple, et la nature nous l'enseigne, il y a des plantes qui ne poussent pas partout. Si tu veux les voir germer, tu dois les semer ou semer leurs graines dans un environnement précis. Et il y a des choses qui se retrouvent quasiment partout. Vous m'entendez ou pas? Par exemple, la nature nous enseigne qu'il y a des vêtements qu'on ne met normalement qu'en hiver. Mais la mode ou le fait de vouloir ressembler à ceux qui vivent en France va emmener quelqu'un qui est au Gabon dans la chaleur de Libreville à mettre un manteau sans voiture, attendre le taxi dans une fourrure, dans un vêtement de fourrure d'animal. Parce qu'il veut ressembler à ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Vous m'entendez ou pas? C'est vrai même pour les parfums. Il y a des parfums qui ne sont pas faits pour l'été. Quand il fait très chaud, il y a des odeurs qui importunent. Mais en hiver, le froid facilite le fait que ce parfum se répande et que les gens soient émerveillés. Dans la chaleur, tu énerves. Avec le bon parfum, avec un vrai parfum, mais dans le mauvais environnement, tu énerves. Vous m'entendez ou pas? Ok. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu aies accès à la vérité. Il y a une maîtrise de la vie, de la spiritualité, que nous n'avons pas. Et je veux te dire que connaître n'est pas suffisant. Il faut connaître avec précision. Mesdames, vous qui faites la cuisine, le but, ce n'est pas simplement de préparer un plat. C'est de réussir le plat que tu prépares. De telle sorte que celui qui le mange ne soit pas juste rassasié. Écoutez, manger, c'est pas bouffer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Déguster ne peut se faire que lorsque le plat a les aromates, a ce qu'il faut. Bouffer, c'est le plus important, c'est que ta panse soit pleine. Je prêche, mon père. Le plus important, ce n'est pas ce que ça laisse sur ton palais, c'est que ton ventre soit plein. De toutes les façons, ça part au même endroit. C'est ce que les bouffeurs disent. Mais ceux qui mangent savent que ce n'est pas juste se remplir le ventre, c'est qu'il faut que ce soit agréable. Que tu dégustes, que tu découvres certaines saveurs que tu ne découvrirais pas. Vous savez, c'est le sans-feuille ou le mille-feuille, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le sans-feuille ne peut pas se comparer à un plat fait par un cordon bleu, ce n'est pas pareil. Okay. Pourquoi je dis ça, mon temps. Inviter quelqu'un au dos tourné, ce n'est pas comme l'inviter dans un restaurant 5 étoiles, ce n'est pas pareil. Vous m'entendez ou pas? Certains d'entre vous, vous ne voulez pas vivre, vous voulez survivre. Le plus important pour vous, ce n'est pas d'être au sommet du potentiel que vous portez. Le plus important pour vous, c'est simplement de payer des factures. D'être là, j'ai un travail. Pourquoi tu as un travail? Parce que je dois payer les factures. Mais pourquoi tu payes les factures? Parce que je vis quelque part. Ça veut dire que tu ne vis pas pour un objectif. Tu attends ta mort en te disant, au moins, j'aurai vécu. La Bible fait mal, la Bible dérange. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Regarde ton voisin, dis-lui, survivre, ce n'est pas vivre. Et on a du mal avec plusieurs d'entre vous, parce que lorsqu'on essaye de créer des images de succès et de réussite, ça ne trouve pas dans votre cœur un écho favorable, parce qu'en réalité, vous ne voulez pas réussir. Je vais pousser. Vous ne voulez pas réussir véritablement. Vous enviez la voiture, vous enviez le poste, vous enviez le mariage. Ce n'est pas le succès que vous voulez, c'est ce qui ressemble au succès. La vie du paraître. Trois Jean, deux. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il me reste 15 minutes. Ceux qui prennent des notes, écrivez que c'est possible de prospérer partout. À tous égards, dans tous les domaines. Okay. La prospérité n'est pas obligée de rester financière. Tu n'es pas obligé de troquer, d'échanger l'argent, ou du moins, la santé pour l'argent. De bonnes relations pour l'argent. Ce que Dieu veut pour nous, c'est tout ça. Dans tes finances, tu es épanoui. Le mot prospérité ou la prospérité parle de l'état d'abondance. Qu'en réalité, tu es épanoui. Financièrement, tu es épanoui, dis amen. Relationnellement, tu es épanoui, dis amen. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être prospères partout et avoir une mauvaise santé et nous dire que la prospérité va tenir. Quand tu es malade, la maladie te fait perdre le goût à la prospérité. Ça vous est déjà arrivé d'avoir mal à la dent? La nuit. Vers minuit, 2h, 3h du matin. Qui sait ce que c'est que d'avoir tellement mal que si tu pouvais arracher toi-même ta dent? Tu réfléchis même, tu te dis, je coupe, je casse, je fais comment? Si on te dit, vide ton compte en banque, tu vides. Qui a déjà eu des coliques? Les choses qui t'attrapent toujours dans les endroits les plus bizarres. Quelqu'un les appelle les Philistins. Quand ça t'attrape, oh mon Dieu, mon frère, ma soeur, ça ne respecte personne. Ça ne respecte pas le costume, ça ne respecte pas l'âge. Tu es une mère de famille, un père de famille. Tu te retrouves acéré. Même pas encore dit ce que je voulais vous dire. Ouais, il n'y a aucun doute. L'âme, et je vais essayer de vous parler dans les quelques minutes qui restent. Le texte dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme, dites comme, prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité à tous égards, la bonne santé est liée à l'état de ton âme. La prospérité est un état d'âme. De la même manière que ton âme prospère, ainsi sera ta prospérité financière. L'âme, dans le contexte que je veux aborder ce soir, est le siège de l'émotion, des émotions, de l'intelligence, de la volonté. En d'autres termes, il y a une prospérité que nous ne pouvons pas obtenir, à laquelle nous ne pourrons pas accéder si nous n'apprenons pas à gérer correctement nos émotions. Être prospère à tous égards n'est pas possible si nous ne nous maîtrisons pas. Les émotions ne sont pas diaboliques, ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent nous enjoindre, nous pousser à mal agir. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à gérer nos émotions, c'est parce que ça demande du travail. Gérer son âme, c'est du travail. La Bible dit, à cause du travail de son âme, mon serviteur juste rassasira ses regards. On parle de Jésus. C'est plus facile de rester dans deux extrêmes. Le premier extrême, c'est qu'à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu n'arrives pas à te dissocier de ce que tu ressens. Tes émotions, c'est toi. C'est pour ça que quand tu ressens quelque chose, tu dois forcément l'exprimer. Tu es en colère, tout le monde doit voir que tu es en colère. Tu dois gaspiller, tu dois casser, tu dois injurier. Tu es triste, tu dois t'enfermer, tu dois pleurer, tu dois déprimer. Tu es en joie, tu fais preuve de folie. C'est l'un des extrêmes. Pensez que tes émotions, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ce que tu ressens. Je fais ce que je ressens. Ce que je ressens est toujours vrai. Est-ce que je peux vous déranger 30 secondes? Vos émotions ou ce que vous ressentez n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce que vous le ressentez que ce que vous ressentez a une raison valable d'être. Par exemple, je vois le révérend Guy parler avec la révérende Karen. Pendant qu'il parle, après avoir parlé, il me regarde, elle sourit. Je me dis, il parle de moi. Ils le font souvent. Automatiquement, j'ai interprété son sourire comme étant la preuve qu'il parlait de moi. Ce qui s'ensuit, c'est que je ressens quelque chose. Soit de la tristesse, soit de la jalousie, soit de la colère. Et je me dis, parce que je ressens ce que je ressens, j'ai raison. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous battiez. Tu peux ressentir quelque chose, mais ce qui soutient ce que tu ressens est un mensonge. N'est pas vrai. Mon père, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent, ah, j'ai un problème, j'ai quelqu'un qui parle de moi dans l'église et dans la ville. Je dis, ok, qu'est-ce que la personne dit de toi? Elle dit que je suis avec telle personne, je sors avec tel homme. Okay? Je dis, pourquoi elle dit ça? Elle dit, je ne sais pas. Finalement, je convoque la personne. Malheureusement, ce sont deux chrétiens de l'église, mais bon, je convoque la personne et je dis, mais pourquoi tu dis ça sur lui ou sur elle? Je les ai vus. Tu les as vus où? J'étais dans un quartier, un carrefour, et j'ai vu deux personnes dans le noir. Et je dis, ok, mais est-ce que tu les as vraiment vus? Mon évêque, c'était sa silhouette. Non, vous dites Jesus, vous êtes choqué. Mais vous faites pareil. Ce n'est pas parce que vous regardez quelque chose que vous la voyez. Ça nous est tous arrivé de regarder dans une direction, de ne pas voir les personnes qui sont là, et quelqu'un qui a le sentiment que tu le ou la regardes, fait un signe de la main. Tu ne vois pas le signe de la main parce que tu ne regardes, oui tu regardes dans la direction, mais tu ne vois pas la personne. Vous m'entendez ou pas? Ça veut dire que c'est possible de regarder sans voir. Et Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Je veux être sûr d'abord de ce que tu vois avant de te donner le message. Oh Dieu. Le problème donc, en ce qui concerne l'âme ou les émotions, c'est que l'âme peut fabriquer des émotions qui n'ont pas de raison d'être en termes de vérité ou de validité. Dites amen bien. L'autre extrême, c'est de suppresser constamment ses émotions et de dire ces émotions ne sont pas bonnes. Ça veut dire quoi? Tu t'es dissocié de tes émotions, mais à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu t'empêches de le ressentir parce que tu as été victime de tes propres émotions et tu ne leur fais plus confiance. Vous m'entendez ou pas? Le problème, écoutez-moi, c'est que si Dieu veut vous sauver parfois, Dieu va vous faire ressentir de la peur. Normalement, c'est tautologie. C'est normal de ressentir de la peur du feu. Ça te préserve des brûlures. Si tu n'as plus peur du feu, tu vas t'en approcher et te brûler. C'est normal d'avoir peur du courant. C'est ce qui t'empêche de prendre du fer et de l'introduire dans les pièces, dans les prises de courant. Vous m'entendez ou pas? C'est normal d'avoir un type de peur. Et parfois, ce n'est pas de la peur, c'est de la crainte. Je crains mon peur, je le respecte. Je n'aime pas le voir en colère. J'ai peur qu'il me gronde. La peur d'être grondé fait que je vais me dépasser. Je vais m'organiser pour faire ce que je dois faire parce que je ne veux pas qu'on me gronde. Toi qui ne veux plus aimer. Oui, toi. À cause du gourmand, à cause de la rupture, à cause de la blessure. Attendez. C'est normal d'aimer. La Bible dit Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que Dieu ne vous remplisse pas de son amour. Maintenant, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour philéo, il y a d'autres types d'amour, eros. Mais de quoi je parle? J'essaye de dire que les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions sont neutres. C'est ce que tu fais après avoir ressenti. Ce que tu as ressenti qui t'induit en erreur, qui te garde dans la vérité.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.